Bonjour, c'est Christine de Nîmes. J'appelle pour appeler aux auditeurs de Nîmes et des environs que nous avons ce soir notre repère à 19h30 au café La Brasserie, boulevard Gambetta à Nîmes, comme d'habitude. Mais ce qui n'est pas comme d'habitude, c'est que nous avons une idée pour cette réunion de ce soir, c'est que chacun vienne avec une information qui, à son avis, a été censurée dans les médias du pouvoir et de l'argent. On pourrait ainsi imaginer un effet boomerang, un jeu qui consisterait à, après avoir collecté toutes ces informations, les renvoyer aux médias. But donc, remettre en circulation l'information censurée, peut-être notamment autour de l'Europe.
Je m'appelle Marco, je suis chiariste, je suis payé au SMIG, j'ai deux enfants, ma femme est mère au foyer. Depuis le 1er juin, je perçois le RSA, ce qui me permet de survivre. Ce RSA est financé par de l'argent public, donc par vous, gentils auditeurs. Grâce au RSA, mon gentil employeur continuera à me verser un salaire de misère. Ce RSA a été chaleureusement accueilli par le gentil MEDEF. Je suis content car les gentils capitalistes, qui ont toujours tiré à boulet rouge sur l'État interventionniste, se sont réconciliés avec lui. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Vive le RSA. C'est Jackie Piquet-Toi, Dieu-Fi.
Merci aux salariés de Goodyear pour leur belle leçon de résistance et à la bas si j'y suis de s'en faire l'écho. L'avenir appartient plus que jamais à ceux qui luttent, nous rappelle-t-il. À nous maintenant de prendre le relais là où on se trouve et avec les moyens qu'on voudra bien se donner. Ce sera sûrement une piste de discussion après un passage obligé par les élections européennes lors du prochain repère de Limoges mercredi 3 juin à partir de 18h30, toujours au Woodstock Boogie Bar.
J'appelle pour signaler qu'il y a une grève dans la restauration ferroviaire depuis maintenant 4 semaines, depuis que la SNCF a donné le marché à un prestataire low cost. La première chose qu'il a fait, c'est de remettre en cause conventions collectives, représentation syndicale, présence du CECHT, enfin bref, ils sont là pour tout casser. Alors ils ont été s'inscrire sur le portail des luttes. Si vous avez envie de faire des dons, faites des dons. Ça peut toujours les encourager à poursuivre la grève. Un peu de soutien, un peu de solidarité. Et je pense qu'on pourra arriver à mener ce combat. Voilà. Merci Daniel. Bonne journée.
Salut Mermet. Salut à tous les AMG. Ce soir, mercredi 3, aura lieu le repère de juin de Annecy Mété. Dans la bonne humeur et la convivialité, nous ferons un état des lieux de la recherche et de l'éducation. Avec de nombreux invités, chercheurs, formateurs, enseignants de maternelle, de collège, de lycée, ainsi que des élèves et des parents d'élèves, nous évoquerons la direction vers laquelle les lois actuelles tirent inéluctablement la recherche et l'éducation. Fin des débats vers 21h, possibilité de manger sur place. Si un petit producteur de lait local veut intervenir, on peut toujours lui laisser la tribune avec plaisir quelques minutes. C'est tous les premiers mercredis du mois au Dercine de Mété à 19h. Qu'on se le dise et répète.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, je me trouve là sur la place de l'hôtel de ville d'Amiens, où il y a une manif qui rassemble Continental, Clairois et Goodyear Amiens Mène Combat, puisque d'un côté il y a 1120 licenciements, de l'autre il y a 800 licenciements supplémentaires qui viennent d'être annoncés. Donc là, on bouge des merguez, c'est la fête entre guillemets, il y a 2-3 000 personnes. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Il y a un sentiment d'impuissance politique. Salut Daniel, ciao.
Merci pour ces messages, chers AMG. Vous en avez reconnu un, là, François Ruffin, qui était dans le reportage d'hier et qui était à Amiens entre les Conti et les Goodyear avec un certain sentiment d'impuissance, même si les merguez étaient de rigueur hier à Amiens. Nous, on repart en Bolivie. Et cette fois-ci, on est à Sucre. Ah, Sucre. Oui, c'est une ville qui s'appelle Sucre, vous le savez sans doute, au milieu sud de la Bolivie. Une très, très, très belle ville, une belle endormie, on va dire, au pied de Potosi, en dessous de Potosi. Et là, il se passe des choses singulières quand même dans cette ville depuis que Evo Morales a été élu en décembre 2005. Il y a une tension énorme dans cette ville qui rêve de redevenir la capitale qu'elle fut, capitale de la Bolivie, alors que c'est La Paz aujourd'hui, la capitale. Il y a une tension entre ces deux villes, mais c'est pas seulement une tension comme ça, symbolique, géographique, ça va beaucoup plus loin, ça en dit long sur l'histoire ancienne et l'histoire présente de cette ville et de ce pays. Pourquoi ce pays est-il si intéressant et nous passionne-t-il tant? C'est que dans la vague, le grand virage à gauche, disons, de l'Amérique latine, la Bolivie est en tête, disons. C'est un laboratoire que le reste de l'Amérique latine observe de très très près, tant même si évidemment tout n'est pas comparable dans chacun des pays, mais quand même beaucoup de choses se ressemblent, tant ce qui se passe là, ce qui se risque là, ce qui s'essaie là, avec un certain courage, avec une certaine force, avec une certaine détermination, et bien risque de déterminer les politiques à venir dans cette partie du monde, et par voie de conséquence, même s'il ne faut pas faire de rapprochement trop direct, il y a quelque chose là qui nous concerne, en tous les cas, qui ne peut pas ne pas nous intéresser. Voilà pourquoi nous sommes à Sucre jusqu'à 16h ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
23 minutes, temps consacré à un avion qui s'écrase au milieu de l'Atlantique. 23 minutes pour nous expliquer qu'on ne connaît pas les causes de ce crash. Et l'info planétaire principale, à savoir la nationalisation de General Motors et l'abandon d'un dogme par les USA, le faucon qui vacille et desserre ses griffes, 0 minute, 0 seconde, aux 13 heures de France Inter. Pourtant, là, il y a des explications et il y a des causes connues.
La désobéissance civile est le refus de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent. Le terme fut créé par l'américain Henry Ted Thoreau dans son essai « Résistance au gouvernement civil », publié en 1849 à la suite de son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique. Venez en discuter au repère de là-bas si j'y suis, mercredi 3 juin de 18 à 20h, au Cybermouton à Grasse. On vous attend nombreux. Ciao, ciao.
J'ai 20 ans et j'ai envoyé plein de CV et tout pour travailler pour le mois de juillet. Et j'en ai envoyé peut-être 50, un truc comme ça, depuis le mois de mars et tout. Dans des magasins, dans des hôpitaux, dans des mairies. Et j'ai eu qu'une seule réponse. Et c'est dans une banque.
Bonjour, c'est Christine de la Creuse. Je viens d'écouter l'émission sur Goodyear. C'était vraiment édifiant. Par contre, tout de suite après, le message du ministère du Travail, ça a hurlé. Je m'appelle Marc, je suis chariste, on vit à 4 sur le SMIG et comme j'arrive pas à joindre les deux bouts, ben on me donne une aumône. C'est magnifique. Purée, mais comment on peut avoir autant d'indécence de la part de ce gouvernement de merde, mais c'est hallucinant ça. C'est honteux de leur part, honteux.
Bonjour, je profite de l'émission d'aujourd'hui pour dire ma solidarité aux employés en grève, en lutte, en licenciement des groupes de fabricants de pneus Goodyear dans l'Europe continentale. Et de dire à ces employés, attention, ne brûlez pas les pneus neufs, parce que 1, c'est pas bon pour la planète, 2, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de pneus pour continuer à chercher du travail en milieu rural et qui n'ont pas les moyens financiers pour changer les leurs. Moi, par exemple, je suis un petit artisan qui a fait faillite, qui n'a jamais touché le salaire que j'ai pu donner à mes employés et qui n'a aujourd'hui droit à rien, ni chômage, ni RMI, et qui a besoin de 4 pneus pour ne pas crever la dalle et garder espoir de trouver du travail. Alors, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, lou.sur.msn@hotmail.fr. Et si occasionnellement quelqu'un a besoin d'un conducteur de travaux dans la région PACA, je suis preneur aussi. Merci Daniel, merci les AMG, merci à votre émission. Allez, courage.
Voilà, il est 15h05, dans quelques instants, la baisse j'y suis, quoi, sur Radio Aclos.
Eh ben salut, c'est la masse j'y suis, nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Buenas tardes, bienvenido al programa Zaymincho de Radio Aclo. ¿Cuál es su nombre?
Me llamo Antonio Chao. Estamos muy agradecidos de estar aquí con vosotros en Radio Aclo.
También tenemos aquí un caballero, ¿cómo se llama usted?
Mon nom c'est Daniel, on est là avec Maria. Voilà, on est très, très émus et très admiratifs de son travail, les reporters populaires.
Muchísimas gracias, Antonio gracias. Y Daniel. Muchas gracias. Anchapa chinik jahari zadiu teroscona transiamanta chamunku yankascuna uf medio de comunicación kai sukrellas taman aclorodiuman hasta imaina yankai imaina kausei kapuan chichaitos de suma.
Bolivia en contacto en
Y ahora estamos con ustedes para compartir, reflexionar también distintos ámbitos de la información. Marianela Paco Vidal, bienvenida a usted que nos acompaña día a día con su sintonía a través del radio.
¡Salud! C'est Daniel Mermez, c'est la basse qui suit avec Antoine Chao. Vous avez entendu, on est sur Radio Aclo à Sucre en Bolivie. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Takikunawan imana peguspa kasunche huatajun tarakuna kasyanku paikunaman ahnamancha kasyan takikuna kusarikunapa jari zaiminche huakichiman tapacha.
Voilà, le disque est lancé. On est à Radio Aclo, la radio, une radio de Sucre. Et l'animatrice que vous venez d'entendre et qui parle en quechua, eh bien, c'est Maria.
Maria, mi nombre es María Luisa Quispe.
Que... Je m'appelle María Luisa Quispe.
Un saludo grande.
Je salue tout le monde.
Para las personas que están escuchando
pour
en Francia.
Pour tous les auditeurs en France.
Muchas gracias por haber llegado en este momento a la Radio Aclo.
Merci d'être venu ici à la Radio Aclo en ce moment.
Para nosotros es un orgullo conocer a periodistas de afuera.
Nous sommes très heureux de rencontrer des journalistes étrangers de l'extérieur.
Porque Fundación Aclo estamos trabajando también con la gente del campo, con mujeres.
Parce que la Fundación Aclo, nous travaillons avec les paysans, avec les femmes.
Con temas de agropecuaria.
Sur les problèmes d'agriculture.
Noticias.
Des nouvelles.
C'est-à-dire que là, vous nous parlez en espagnol, en castillan. Mais à la radio, vous parlez en quechua.
La radio está en castellano, sale en quechua también.
Elle est en quechua et en espagnol.
Claro que sí, esta hora también necesita alegrarse un poco.
Là, c'est un programme un peu festif à cette heure-ci.
En castellano sería también les musicales, ¿no? Desde las 2 hasta las 4
de la
tarde.
Donc c'est de 2h à 4h, on fête les anniversaires ici à la radio Aclo.
Satellital, llegamos a otros países también.
Et même via le satellite, on va à l'étranger.
Vous êtes en train de coloniser la planète.
La prochaine Marésia à Paris.
Les Quechua vont envahir l'Europe, vont coloniser l'Europe bientôt, non?
Pour cette satellital, llegamos mediante satellite, llegamos à Pérou.
Oui, via le satellite, peut-être, mais pour l'instant, c'est le Pérou, l'Équateur et le Venezuela.
Et tout à l'heure, on parlait de reporters populaires. C'est quoi, Maria, les reporters populaires?
Los reporteros populares están formados también por ACLO, donde están ellos mandan sus noticias.
Y donc, c'est un programme de formation qui a été mené par ACLO. Et les gens sont formés au journalisme et ils peuvent nous envoyer les informations.
En las comunidades, hay muchas noticias. Por ejemplo, de la gente del campo, poco habla, poco se dice.
Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les campagnes. Il y a peu de choses qui viennent jusqu'ici, jusqu'à la ville. Ils font le relais d'informations.
En algunos municipios nomás hay internet. No hay internet.
Il n'y a pas internet dans tous les villages, seulement dans certains.
Et voilà. Alors, là ça sonne. C'est quelqu'un qui vous appelle pour son anniversaire.
Voilà. Ya, conectan para que qué momento vayamos a querer. Ya. Con esta palabra.
Voilà, c'est pas tous les jours qu'on entend du quechua quand même sur France Inter. Ce qui est intéressant avec cette radio associative de Sucre, cette radio qui s'appelle Aclo, avec sa très gentille animatrice Maria, c'est les reporters populaires. Évidemment, c'est ça qui nous a intéressés. C'est-à-dire que dans les communautés paysannes, au loin, eh bien, il y a des gens qui remontent des informations. Et ça veut dire, c'est le symptôme d'une société très organisée. Les sociétés paysannes, indigènes, quechua et mara sont très très organisées dans ce pays, dans cette Bolivie, tout comme d'ailleurs la société, la classe dominante, les oligarques, les conservateurs, la droite radicale, on va le voir, est très organisée, on l'a vu à Santa Cruz avec les fameuses loges qui disent à c'est l'organisation de cette société. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que la Bolivie a connu 150 coups d'État depuis son indépendance en 1825. Et aucun des derniers présidents n'a achevé son mandat à terme. Alors, est-ce que c'est parce que la société est très organisée, très communautarisée, que la politique nationale n'arrive jamais à intégrer tous les éléments épars de cette Bolivie, ou bien est-ce parce que le pouvoir central est faible et instable que la société s'organise? Ça, c'est la poule et l'œuf. En tous les cas, on est au milieu de la poule et de l'œuf, là, à Sucre, ancienne capitale de la Bolivie. C'est là qu'est née l'indépendance bolivienne au début du 19e siècle. Et puis, la ville a connu un déclin au fur et à mesure que déclinaient les richesses extraites de Potosi. C'est juste à côté, Potosi. Donc, la ville de Sucre s'est développée dans une belle ville coloniale, bourgeoise, très, très, très belle, mais très, très endormie aujourd'hui, et qui veut redevenir la capitale de la Bolivie. C'est un enjeu majeur, c'est une question de vie ou de mort pour une partie des habitants. Mais évidemment, derrière cette revendication, il y en a une autre, parce que l'ennemi, l'adversaire, c'est la Paz, et la Paz, ça veut dire l'indienne, ça veut dire les Aymaras, ça veut dire les indigènes, ça veut dire les paysans, et ça veut dire tout simplement une lutte sociale qui vient se superposer à une vieille lutte raciale qui caractérise un pays comme la Bolivie. Alors Evo Morales a été élu en décembre 2005 avec une confortable majorité. Il a été élu au premier tour avec près de 54% des voix, ce qui s'était pas vu depuis très longtemps. C'est le premier président indigène. Il est Aymara lui-même. Il est à la tête du MAS, le mouvement vers le socialisme, et qui repose, le rappel, sur deux ruptures. Rupture avec le modèle néolibéral, rupture avec l'État colonial. Et nous y voilà. Et tout ça avec un programme de nationalisation des ressources naturelles, de réforme agraire, de décentralisation, etc. Mais tout ça entraîne évidemment la furie des élites et de l'oligarchie qui contrôle le pays et l'économie sans partage depuis très longtemps, d'autant que ces réformes sont passées par une nouvelle constitution, l'élection d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Et c'est à Sucre où nous sommes que s'est réunie cette assemblée constituante, ce qui a entraîné de formidables tensions dans cette ville. L'assemblée constituante a duré des mois et des mois, et ça a entraîné aussi des émeutes dans cette ville entre cette oligarchie conservatrice, cette élite, cette droite autonomiste, et puis les forces proches du président de la République et de son parti. Donc Sucre, on est au cœur du problème, et on y est jusqu'à 16h dans la basse. J'y suis. Bolivie, une révolution en dents de scie.
L'heure de l'espérance est arrivée. Récupérons toutes nos ressources. Le capitalisme nous a fait du mal. Toutes ces années, il nous a trompés. Cette assemblée est constituante. Le Sucre et Bolívar pour la deuxième fois. Grâce à l'effort de nous tous, car nous luttons ensemble pour nos droits. Contre l'oligarchie et pour nos droits. Notre Bolivie se trouve plus unie. Nous discuterons de nos différends et nous verrons qui a raison. C'est l'oligarchie qui nous a fait du mal. Récupérons toutes nos ressources énergétiques dont l'oligarchie nous a dépouillés. Les mines et les hydrocarbures et nos entreprises privatisées. Récupérons toutes nos ressources dont l'oligarchie nous a dépouillés. Les mines et les hydrocarbures et les entreprises privatisées.
Là, on est vraiment devant un monument monumental, hein, parce qu'on en a vu, nous, des choses dans notre vie, déjà. Moi, notamment, mais ça, non. J'ai jamais vu ça. Un monument pareil. C'est difficile à décrire, déjà. Hein. Il y a... Je pense que le sculpteur pourrait trouver du boulot en Corée du Nord, je pense. Hein. Il a tout à fait le style en version moderne et cubiste, un peu. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois trois figures de garçons, puisque ce sont des étudiants dorés, des sculptures dorées qui représentent, dans un style vaguement inspiré de Zadkine, bon, qui dressent au bout de leurs bras des sortes de sabres.
Des bâtons.
Des bâtons. Il y en a un qui tient, on ne sait pas si c'est un livre ou une brique, mais ça c'est toujours le problème de la sculpture. Une brique ou un livre, ça c'est une vieille histoire. Alors, ensuite, il y a une sorte de portique, et accroché à ce portique, sortant de terre de façon menaçante, des manifestants armés de bâtons, de lance-pierres, de casse-têtes divers et variés, masqués, agressifs et toujours un petit peu cubistes, qui se dirigent vers le centre du monument, de l'installation. Ces trois mains, on reconnaît quand même des mains, toujours dans un style un petit peu cubiste, années 1920 à peu près. Trois mains qui se dressent, qui entourent un poteau central couronné d'un pneu, d'un gros pneu noir et d'un autre perpendiculaire avec quelque chose de rouge au-dessus qui sont des flammes. Donc c'est une sorte de monument aux pneus. En tout cas, un monument aux pneus, j'ai vu des monuments à des tas de trucs, des hommages à des tas de choses, des gloires, des victoires, des dénonciations par le monument. Mais là, j'avais jamais vu de monument en hommage, enfin, figurant des pneus en flammes. Alors, heureusement, il y a Pascal avec nous.
En fait, le monument, il est dressé sur les pas très loin des lieux où ont eu les premiers affrontements entre les étudiants et la police, puisqu'on est sur les lieux où l'Assemblée constituante a terminé ses travaux. Et au moment de la fin des travaux, donc, elle a été assaillie par les étudiants qui refusaient que l'Assemblée constituante se termine sans que soit résolu le terme du retour du pouvoir exécutif et législatif à Sucre. Donc c'est là qu'ont eu lieu les affrontements au milieu des montagnes.
Ce que veulent ces gens qui sont figurés là, c'est que Sucre redevienne la capitale de la Bolivie. Or, cette assemblée constituante qui s'est réunie pendant une année ici à Sucre n'est pas arrivée à un tel résultat. Il y a d'autres résultats, il y a d'autres choses qui ont été décidées. C'est la grande affaire de la Bolivie d'aujourd'hui, cette révolution par la constitution, révolution démocratique, mais il n'y avait pas cette disposition-là qui est ce que une partie des habitants de la ville espère le plus, notamment les étudiants.
Donc effectivement, quand l'assemblée constituante s'est terminée, les gens ont voulu démontrer leur colère en assaillant la caserne militaire où s'étaient reclus les constituants du MAS pour approuver la constitution. Et il y a eu ici deux morts.
El Contacto, el noticiero nacional de la Red de Bolivia.
Aquí estamos en la batalla de Sucre, ¿no? La policía es como 200 metros desde acá, ¿no? Él, esos migueros, mi guía, él me cuida, porque aquí es bien peligroso. La policía está avanzando, ¿no?
Sucre debout, jamais à genoux, les voyageurs, les paisibles touristes qui traversent la Bolivie depuis des années, qui adorent s'arrêter à Sucre, traîner dans cette ville endormie, belle comme tout, etc. On doit être tout à fait suffoqué d'entendre des choses pareilles, mais quand on parle de guerre civile rampante, là, elle rampe plus, c'est la vraie guerre civile. C'était le 25 novembre 2007, et voilà ce qui s'est passé au terme de cette assemblée constituante implanté qui se déroulait à Sucre, c'est ces manifestations très violentes qui ont vu deux morts, puis un troisième mort dans des affrontements entre ces forces autonomistes blanches ou disons dans une tradition d'oligarques qui ont l'habitude de considérer que ce pays est à eux et les richesses de ce pays à eux et que il est impossible de changer les choses. Et là, c'est effectivement extrêmement violent. 350 000 habitants à Sucre, qui est aussi une ville symbolique, parce que c'est là d'où est parti le cri, d'où est parti le mouvement d'indépendance contre l'Espagne en 1809. Et la ville a perdu sa place de capitale au 19e siècle au profit de la paz à la suite d'une guerre civile. Donc, il y a quelque chose là dans les mémoires qui est extrêmement vif, profond. Ça peut sembler ridicule de se battre pour qu'une ville devienne une capitale, mais enfin voilà, c'est ainsi, c'est les passions politiques qui ont dominé, qui ont entraîné ces morts, ce monument énorme là qui était la sortie de la ville. Et on va voir que ça aura des conséquences, puisque en mai 2008, on va y venir, il y a eu des manifestations alors qui sont liées avec celle-là, bien évidemment, et il y a eu de véritables pogroms envers des paysans indigènes, Aymara, dans cette ville, et des scènes et des images qu'on n'avait pas vues depuis les scènes d'apartheid en Afrique du Sud, ce qui encore une fois est bien étonnant par rapport à une ville aussi paisible. Alors, que s'est-il passé en novembre 2007? Évidemment, des enquêtes ont été lancées, mais pour l'instant rien n'a abouti. Qui a tiré, quelles sont les victimes, qui sont les bourreaux, qui sont les assassins, on ne le sait toujours pas. Voilà le point de vue de Raphaël Mora, qui est un prêtre jésuite. Il est président de la radio qu'on vient d'entendre tout à l'heure, la radio ACLO, et il est militant d'ONG. Raphaël Mora, son point de vue.
Las muertes de noviembre.
Les morts de novembre.
Nunca se ha sabido quién las causó.
On n'a jamais su qui en a été l'auteur.
La policía no tenía armas de fuego.
La police n'avait pas d'armes à feu.
Aquel día.
Ce jour-là.
Y lo que han dicho es que había francotiradores del gobierno.
Et il a été dit que le gouvernement avait placé des tireurs d'élite.
Porque alguien vio francotiradores.
Parce que quelqu'un a vu des tireurs d'élite.
¿Qué sentido tiene que el gobierno en aquel momento provocara unas muertes cuando era obvio que se iba a ir contra ellos?
Mais quel intérêt aurait eu le gouvernement ce jour-là de tuer des gens en sachant que ça allait forcément se retourner contre lui?
Se trató de aclarar. Alors, on a essayé d'éclaircir. Il y a une commission de fiscales, balísticos.
Il y a une commission de juges qui a été diligentée.
Et la gente de Sucre no permitió ni que se hiciera la autopsia.
Et ici, les gens de Sucre.
Comité interinstitutionnel.
Ouais. Ici, le comité interinstitutionnel a refusé que des autopsies soient pratiquées.
Et no permitió que los expertos en balística acabaran el estudio.
Et il n'a pas laissé les experts en balistique terminer leur travail.
Porque el fiscal, la fiscal, era parte del comité interinstitutional.
Parce que la juge faisait partie justement du comité interinstitutionnel.
Hasta el punto que cuando presentábamos algunas denuncias, los campesinos iban a presentar denuncia de lo que había pasado.
Au point que quand les paysans venaient porter plainte,
no les tomaba audiencia.
Ils ne prenaient pas leur déposition.
Solo se tomaba audiencia de los universitarios.
Ils n'ont pris les dépositions que des universitaires.
Sí, vivimos aquí un año sin derecho a la justicia.
Effectivement, on vit ici une année sans droit à la justice.
Es lo que yo denuncié en público, ¿no?
C'est ce que j'ai dénoncé publiquement.
On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu deux morts par balle. Le gouvernement dit que la police n'avait pas ordre de tirer, mais quelqu'un a tiré sur ses étudiants.
Pascal Apsi.
Le étudiant a été tué ensuite, puisque dès que l'annonce du premier mort a été connue, les gens de Sucre se sont réunis aussi dans les rues de Sucre et ont pris tous les postes de police, les pompiers, etc. Et il y en a un qui est mort avec une grenade lacrymogène.
Donc ce monument, c'est l'hommage aux trois étudiants martyrs tués ce jour-là. Enfin, évidemment, ça masque autre chose. Ça masque d'autres combats, ça masque d'autres aspects de la lutte. Parce que c'est bien une guerre civile rampante qui caractérise la Bolivie d'aujourd'hui. Là, elle n'était pas tellement rampante, d'ailleurs. Hein.
Bah, effectivement, à Sucre, il y a plusieurs choses qui se sont mêlées. Il y a cette demande historique qui date finalement de la fondation de la Bolivie, de savoir où est la capitale effective de la Bolivie, si à La Paz, c'est la capitale de fait, ou à Sucre, qui est la capitale historique telle qu'elle est marquée dans la Constitution. Et puis, cette lutte régionale, finalement tout à fait légitime, il y a eu une intrusion des autres luttes régionales, notamment les régionalismes de Santa Cruz, qui ont trouvé dans cette revendication locale une manière aussi d'augmenter l'opposition au gouvernement. Donc il y a eu des alliances qui se sont faites entre Sucre, la ville de Sucre, je parle de la ville de Sucre, et les opposants de Santa Cruz. Il y a en fait une rancune historique entre Sucre et le gouvernement central. Donc effectivement, qui peut, dans un contexte d'ethnicisation de la pensée politique, se traduire par une lutte imaginaire contre les Aymaras de La Paz. Ici, on est en zone Quechua. Au final, c'est une lutte historique des régions, et notamment de Sucre, contre le centralisme d'État. C'est pas des revendications qui datent de l'époque d'Evo Morales. C'est des choses qui sont très, très anciennes en Bolivie. Donc, cette lutte aussi contre le centralisme d'État, elle s'inscrit dans des pratiques quotidiennes insupportables pour les gens, où il faut toujours aller à La Paz pour faire quelque chose. Et ça coûte cher d'aller à La Paz, c'est loin, c'est compliqué. Donc il faut bien comprendre que ça a aussi du sens pour des petites choses quotidiennes. Et peut-être une des choses qu'on peut dire par rapport à ce monument, c'est aussi l'événement fondateur, peut-être pas tant d'une lutte entre Coya et Camba, etc., mais ça a été aussi le début d'un divorce beaucoup plus évident entre Sucre et ses campagnes. Puisque c'est à partir de la violence de la réponse policière, ou en tout cas à partir de ces morts de novembre et du refus de recevoir de l'Assemblée constituante du thème de la capitale, que se sont passés les événements de mai. Puisqu'en fait, il y a une espèce de transposition imaginaire entre la figure du gouvernement qui refuse d'écouter Sucre dans ses réclamations et les paysans qui étaient comme, c'est ce que les gens leur disaient, comme les enfants d'Evo Morales qui devaient payer pour les fautes de leur père.
Donc ça, c'était novembre 2007.
Voilà, c'est novembre 2007.
Que denuncia del presidencia. Gente como vos debería morir.
Voilà quelques extraits brefs de ces journées de violence insensée dans cette ville, des explosions comme ça de violence. Et tout ça, encore une fois, dans un pays où la vie est très organisée, où les gens savent s'organiser, ont l'habitude de s'organiser, et notamment
cette radio en témoigne, la radio Aclo en témoigne, dans les communautés paysannes indigènes. Le point de vue de Raphaël Mora.
La population est très organisée.
La population est très organisée ici en Bolivie. En Bolivie, c'est une des caractéristiques.
C'est une caractéristique. Por eso, a veces se sorprende cómo pueden paralizar en un día todo el país.
Alors, c'est surprenant comment ils peuvent paralyser le pays en une journée.
Y este sistema de organización viene mucho de la manera de funcionar el pueblo quechua y aymara, ¿no?
Une organisation sociale des peuples quechua et aymara.
Pero que luego se ha extendido a todas partes.
Donc il s'est étendu après au pays, à tout le pays.
Yo siempre digo que el pueblo quechua y aymara de aquí de Bolivia es muy, muy democrático.
Moi, je pense que les peuples aymara et quechua ici en Bolivie ont des fonctionnements très démocratiques.
Es algo que también ahora en este momento no lo conoce la gente esta de la ciudad, ¿no?
C'est quelque chose que ne savent pas les gens en ville.
La única explicación para ellos es que la gente han sido mandados por el gobierno, han sido pagados.
Donc la seule explication qu'ils ont de ces mobilisations rapides, c'est que les gens ont été envoyés et payés par le gouvernement.
Ah oui.
Porque no pueden entender que la gente se reúne, discute.
Ils n'imaginent pas que les gens se réunissent, que les paysans se réunissent, discutent, se rencontrent.
Ah oui, pour eux, il y a toujours des systèmes de commandos, de manipulation, de sociétés secrètes. Oui.
Indien, indien, traître, on va te tuer. On m'a jeté du verre dans les yeux. Ils ont voulu me couper la langue. Et en plus, il y a autre chose. Maintenant, je vais te dire ce qui s'est passé. Même ma famille ne sait pas cette situation qui m'est arrivée. Ils ont voulu me couper les testicules.
Incroyable témoignage dans ce film de César Brie, qui est un documentariste bolivien, un film qu'il a intitulé qu'ils ont, parce que c'est toute une équipe qui a travaillé sur ce documentaire, qui s'intitule Humilié et offensé, et qui retrace ce qui s'est passé ce jour-là, ce jour de mai 2008, ces jours de mai 2008,
donc c'est tout récent, mais qui sont des journées en lien avec ce qu'on vient d'entendre sur novembre 2007. Il y a bien un lien entre les deux dates et les deux drames. Parce que ce samedi de mai 2008, fin mai 2008, le président Evo Morales vient à Sucre et il entend remettre des ambulances à différentes communautés rurales et apporter des soutiens à des programmes sociaux, notamment des logements, etc. Et donc les paysans des alentours viennent tout naturellement accueillir leur président, et au moment où ils arrivent sur le petit aéroport de Sucre, ils se trouvent face à des étudiants extrémistes radicaux qui sont réunis probablement, dit-on, avec la complaisance des autorités locales et notamment avec le soutien et sous la direction du recteur de l'université, de la célébrissime université de Sucre, un certain Jaime Barón, qui est visible, très visible dans le film, qui est une des figures les plus radicales du camp conservateur, et si bien que ces manifestants réussissent à empêcher Evo Morales d'atterrir, la police pour éviter les drames se replie, mais on va assister à un véritable pogrom contre les paysans indiens qui sont venus. Ils seront insultés, frappés, il y aura 50 blessés, dont certains dans des états graves, et ça rappelle tout à fait les pires moments de la répression coloniale. Une trentaine d'indigènes sont traînés jusqu'à la place centrale de Sucre, la place du 25 mai, au centre de la ville, et face à la maison de la liberté, ils sont mis torse nu, contraints à s'agenouiller, à réciter des slogans hostiles au président et contre leur propre communauté. Leurs ponchos, vous voyez cette couverture traditionnelle, leur sont enlevés, sont brûlés, ces ponchos sont brûlés, et la huipala, vous savez ce drapeau qui est le drapeau des communautés indigènes, c'est une sorte de carreaux, comme ça, vous voyez, un ensemble, une mosaïque de carrés multicolores, arc-en-ciel, et bien ces drapeaux sont brûlés. C'est donc, il y a vraiment un pogrom raciste là qui s'est déroulé le 28 mai dernier dans la ville de Sucre. Alors là, on est à la recherche de témoignages de ce qui s'est passé là, dans cette maison où nous sommes, où des paysans ont trouvé refuge, se sont enfermés dans une maison, une petite maison, cernée par ces manifestants, ces étudiants de l'université en furie contre le fait qu'ils soient à la fois des paysans et des indiens.
Sincèrement, nous avons vu comme une peine le texte.
Nous, on avait vraiment de la peine de tout ce qu'ils lui ont fait. Ouais.
C'est. A passé plus ou moins à las 10 à 11 de la matinée, non?
C'est arrivé vers 10, 11 heures du matin.
Especialmente estuve escuchando la radio Aclo y ahí salió, pues, ¿no?
Bueno, justamente que j'écoutais la radio Aclo y c'est là que j'ai appris ce qui se passait.
A las 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, entonces se movilizaron la gente de los universitarios, ¿no?
Mm. À 8 heures du matin, il y a tous les gens de l'université qui se sont mobilisés, qui sont venus ici.
Sí. No, pues ellos más bien estaban contra los campesinos. Sí. Sí.
Sí. Alors les étudiants, là, ils étaient contre les paysans.
Pero inclusive había piedrazos, todo, ¿no? Como una guerra.
Ils jetaient des pierres, c'était comme une guerre. Donc il y avait des gens d'ici, de ce quartier, et puis des paysans qui étaient venus d'autres provinces pour accueillir le président. Et c'était que des paysans qui étaient là, qui étaient réunis ici.
Pero desde esa vez, este lugar, entonces nos hemos organizado bien, entonces que no. Inclusive le hemos dicho que no tiene pisada el Fidel Herrera.
Mais maintenant on s'est organisé et on a dit à Fidel Herrera qu'il n'a plus le droit de venir ici.
Presidente del Consejo Municipal.
C'est le président du conseil municipal.
Esa vez nosotros estamos totalmente molestos para Fidel Herrera, tal John Cava.
Nous on est vraiment en colère contre Fidel Herrera, contre
Jaime Barón y John Cava.
Jaime Barón y John Cava, ils étaient à la tête.
Ellos lo que insistieron a la gente de la ciudad, a los universitarios realmente, ¿no?
Oui, c'est eux qui ont chauffé les universitaires pour venir ici, mais eux, ils n'étaient pas ici directement.
être debout, jamais à genoux.
Voilà, Jaime Barón, donc recteur de l'université, celle qu'il apparaît dans ce documentaire.
Bonne noche.
Alors là, on arrive dans une petite maison là.
Avec la pleine lune. Les gens qui nous reçoivent, ils sont vachement sympas parce qu'il est tard quand même. Hein. Et ils sortent toutes les chaises. Un petit coup de chiffon. Non, mais c'est ça l'hospitalité.
Ta chaise, elle a été désignée pour toi là.
Ah, c'est ma chaise.
Parfait.
Alors on est drôlement bien, on vient rencontrer ces paysans, je le disais, qui ont, lors de cette journée du 28 mai dernier, ont vu leur maison, leur petite maison, cernée par ces manifestants, en majorité, je le rappelle, des étudiants de l'université, venus cerner cette maison à l'intérieur de laquelle s'étaient réfugiés des paysans indigènes du coin. Et les étudiants menaçaient tout simplement de mettre le feu à cette maison et donc avec tous ceux qui étaient à l'intérieur.
C'était le 24 mai, c'est terrible ce qui m'est arrivé là. Ils sont rentrés là. Il y avait plein de gens qui étaient là, qui étaient rentrés chez moi. Ils sont arrivés par derrière, par le jardin.
Mais qui sont les gens qui sont arrivés ici?
C'était les jeunes de l'université d'ici.
Et les paysans, ils s'étaient cachés dans la maison?
Les amis paysans qui étaient là, qui s'étaient réfugiés.
Les étudiants étaient nombreux.
Ah non, aquí llenito, aquí un espacio, aquí atrás llenito. Il y en avait plein. Partout. Alors ma femme, elle pleurait, moi aussi.
Vos compagnons paysans, là, ils se sont défendus?
Ils se sont enfermés, ils se sont tous enfermés dans notre pièce, là. Mais alors ils les ont pris, ils les ont emmenés jusqu'à la place depuis ici.
Il y avait des paysans, des confrères paysans à vous, qui venaient vers la ville pour accueillir le président, c'est ça?
Ah, si, bienvenido. Oui, ils sont venus, effectivement, pour récupérer les ambulances que le président amenait pour leur
communauté. Et après, vous êtes partis avec eux?
Et accompagnés jusqu'à la place. Je les ai accompagnés jusqu'à la place,
Ils en ont conduit combien comme ça?
Unos 45 personas. 45 personnes, à peu près.
Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes paysan?
Aquí yo soy agricultor y yo trabajo en el campo. Je suis agriculteur, moi je travaille dans les champs.
Et sur vos terres à vous, sur les terres de quelqu'un?
Ce sont mes terres. Tengo unos 2 hectares así, menos. J'ai 2 hectares à peu près, un peu moins.
2?
Deux. Porque sí, pero qué voy a hacer así, pues mantengo a mis hijos, por mis hijos vengo acá entonces para hacer estudiar si quiero poco, para que ya no estén como yo. Mais oui, c'est pas beaucoup, mais avec ça, j'arrive. Il faut que je fasse quand même. J'élève mes enfants et que je les fasse étudier pour qu'ils fassent mieux que moi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont emmenés jusqu'à la place de la ville, la place centrale de Sucre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là?
Ah, ils ont quemaron sus ponchos. Alors, ils leur ont brûlé les ponchos.
Brûlé?
Banderas, todo lo quemaron, pues ahí. Leurs drapeaux aussi, ils les ont brûlés. En la plaza arrodillaron, pues. Donc, ils les ont fait se mettre à genoux. Porque de aquí también a la fila. Ils leur ont enlevé la chemise, ils les ont mis torse nu, ils les ont descendus aquí, jusqu'à la place comme ça. Los universitarios en mi grifo lavaban sus cabezas, mojaban todo así. Los universitarios, pues, tranquilos, ellos estaban bien. Puis les universitaires, en plus, ils étaient tranquilles, ils se lavaient au robinet, entonces, comme si c'était chez eux, quoi. Lenito, pues, c'était plein, lenito. C'était bourré, là. Te lo vamos quemar tu casa, entonces... Para que no queme yo le largue, entonces no van a pegar nada a los campesinos. Alors, il me disait, allez, ouvre, fais-les sortir, sinon on va brûler ta maison et on leur fera pas de mal, t'inquiète pas. Yo le abre, entonces. Alors, c'est là, j'ai ouvert. Ah.
Entonces, a un universitario me pregunté, entonces, ¿quién va a ser responsable de todo aquello, destrozos, lo que me están haciendo en mi casita? Entonces, uno me dio su nombre y todo, pues.
Y hay un de los universitarios, yo le dije, ¿pero quién es que va a pagar todos los dégâts? Y me ha dado su nombre.
Se llama Yamil Pilco.
Yamil Pilco.
Dirigente de Juvenil Chuquisaquinista.
El dirigente de jeunesse de Chuquisaca.
Alors, Yamil Pilco, on le rencontrera demain, parce que c'est quand même un personnage intéressant. Il faut entendre l'autre son de cloche pour mesurer bien la tension, parce que cette histoire, évidemment, n'est pas terminée à Sucre, ni en Bolivie en général. Voilà le témoignage de l'épouse de ce paysan.
Joséphine, vous parlez pas espagnol?
Non.
Vous parlez seulement quechua. Vous étiez là l'année dernière, quand ça s'est produit?
J'étais là.
C'était l'heure du déjeuner, j'étais en train de faire à manger et les étudiants sont arrivés, les paysans sont arrivés. J'étais à l'intérieur de la maison avec les enfants.
Indios, campesinos, salgan.
Ils nous ont dit de tout, massistes, indiens, ils nous ont insultés, ils nous ont dit sortez. Nous allons brûler votre maison, ils ont dit. Moi, je suis restée jusqu'au dernier moment avec mon fils aveugle à l'intérieur de la maison et il pleurait. Sur la place, ils ont déshabillé les paysans et ils leur ont dit « Indiens, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?» Ils ont pris des bouts de bois, ils ont accroché les ponchos des paysans et ils ont fait brûler les ponchos des paysans. Et ils ont dit, regarde, c'est ton père Evo qui brûle. Pour les pauvres, il n'y a pas de justice, ça fait déjà plus d'un an.
Merci à tous, merci à Pascal Apsi qui traduisait les paroles en quechua de cette paysanne. Merci à Raphaël Mora, à Pablo Cruz, montage Agnès Lebot, c'était un reportage avec Antoine Chao. Et ne manquez pas sur internet, vous pouvez trouver le film de César Brie, il s'appelle comme ça, Brie, il est bolivien mais il s'appelle Brie, et ce documentaire hallucinant s'appelle Humilié et offensé, vous le trouvez facilement sur internet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter aussi dans quelques heures sur laba.org, la-ba.org, et participer là aussi au forum Malatechnique. Aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Coy Nguyen et Raphaël Mouter ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, Agnès Lebot. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, c'est-à-dire au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Et puis n'oubliez pas, Chomsky et compagnie sera diffusé, sera projeté samedi à 15h au cinéma Le Dietrich à Poitiers, le samedi 6 toujours à 20h au Moulin du Roc à Niort, dans les Deux-Sèvres, et dimanche matin à 10h30 au Stella à Montcoutan. Et dans les trois cas, je répondrai à vos questions après le film Rétam.
La Poste.